Alors voilà, aujourd'hui, après le chapitre sur la connaissance quotidienne que j'ai donné à passé, je prends aujourd'hui les sciences formelles et les sciences empirico-formelles. La fois prochaine, je prendrai les sciences humaines. Donc ces deux leçons prennent les sciences formelles, empirico-formelles et humaines. C'est ce que je considère comme science. Ensuite viendra une leçon sur la philosophie, qui n'est pas une science, qui n'est pas une science humaine. Je vous expliquerai pourquoi. On verra déjà un petit peu maintenant. Et puis enfin, il y aura une leçon sur la connaissance qui est impliquée par l'acte de foi. C'est aussi une forme de connaissance. Alors d'abord, je vais me servir d'un auteur qui s'appelle Schleiermacher. Vous avez les dates ici. Vous voyez que c'est un ancien, c'est un théologien, un philosophe. Il a été très occupé par l'organisation de son université de Berlin. Et l'université allemande s'organisait, il fallait donc diviser les facultés en départements, etc. Donc il a réfléchi sur quelles sont les sciences qu'il faut enseigner, comment est-ce que les sciences se comportent les unes par rapport aux autres. Alors pour lui, je vais faire des tableaux, il y a quatre tableaux hein, pendant ce cours. Pour lui, il y a une série de sciences théoriques et des sciences pratiques. Alors ça, je crois que c'est fort important. Je vais évidemment faire coller hein, ce que moi je raconte avec mes quatre chapitres de la connaissance quotidienne, scientifique, philosophique et de foi, avec ce que lui raconte. Hein. Donc il y a la connaissance quotidienne, la connaissance scientifique, la connaissance philosophique et la connaissance de foi. Ce sont les quatre niveaux que je considère. Je considère donc que je monte hein, depuis la connaissance quotidienne, qui est la base de toutes les connaissances. Après, ça se spécialise. Alors, parmi les sciences, il y a les sciences formelles, empirico-formelles, humaines. Aujourd'hui, on va voir justement les formelles et les empirico-formelles. Et selon Schleiermacher, ce sont des sciences théoriques qui correspondent en face à des sciences pratiques. Alors pour lui, il développe ce que sont les sciences pratiques de la médecine, du droit et de la théologie. La théologie pour lui est une science pratique. Le droit est une science pratique. La médecine est une science pratique. Est-ce que c'est une science? Oui. Est-ce que c'est une science purement théorique? Non. C'est une science appliquée. Alors moi j'ajouterai encore aujourd'hui l'ingénierie, hein, l'ingénierie, et voilà donc pour moi, eh bien, les sciences pratiques, l'ingénierie en général, la médecine, que je mets un peu plus haut parce qu'elle participe aussi d'une certaine manière de quelque chose d'un peu philosophique, hein. Le droit, c'est une science pratique, qui étudie beaucoup de choses en plus de la loi. Il y a toute une philosophie du droit, il faut connaître l'histoire, il y a hein, la jurisprudence, etc. Voilà, alors lui met encore la théologie ici, comme science pratique. Pour lui, la théologie est une science pratique, parce que c'est la science qui permet la vie de l'Église, de la communauté. Alors, pourquoi est-ce que ces sciences sont pratiques? Parce qu'elles ne sont pas que une connaissance, un savoir. Ce sont des savoirs appliqués. Appliqués à quoi? À la vie. À la vie des êtres humains. Alors l'ingénierie, ben, vous voyez que faire des ponts, bien faire des grues, bien faire des ordinateurs, etc., ben, ça permet d'appliquer des connaissances théoriques à un domaine pratique afin de vivre. De vivre. Il faut faire des routes, il faut faire des ponts, il faut faire des avions, il faut faire des... etc. Bon, ingénierie. Ça, évidemment, c'est moi qui l'ajoute, hein, c'est pas Schleiermacher. La médecine, eh bien, c'est un savoir appliqué à la vie du corps individuel, mais aussi du corps des familles, etc. Le droit, c'est la vie de la société. La société aussi est un corps social. Il faut un droit pour que ça puisse vivre. Et puis finalement, il y a une église. Il y a une église, une communauté chrétienne qui doit aussi vivre. La théologie, pour lui, est une science pas théorique, mais pratique. Alors bien sûr, en théologie, il y a aussi des connaissances théoriques,
la Bible, on va étudier la Bible, on va étudier l'hébreu, on va étudier la philosophie morale, la théologie morale, etc. Mais au total, la théologie regroupe un grand nombre de sciences qui, dont le but vraiment est de faire vivre la communauté chrétienne. Donc on fait vivre, je dirais, hein, l'homme en rapport avec le monde, l'homme en rapport avec lui-même, avec la société, donc l'homme, je dirais, et puis l'homme avec Dieu. Ce sont, au fond, les trois idées de Kant. Hein. Le monde, le moi, l'homme, et Dieu. Ce sont les trois grandes réalités. Hein. Voilà, alors à partir de cette idée, je crois qu'il est intéressant de se dire, bon, que sont les sciences théoriques? Moi, je vais me situer uniquement de ce côté-ci pour l'instant. Les sciences en général. Vous savez que on fait des sciences depuis très longtemps. Il y a des géomètres parmi les philosophes grecs, etc. Mais la science s'organise vraiment comme science, avec un projet scientifique, à l'ère moderne. Disons à partir de Descartes, enfin, pour dire quelque chose. Hein. Là, on commence à se dire, on va organiser hein, la recherche scientifique. On a maintenant des outils applicables partout. Et on va organiser cela afin de savoir toujours plus, de manière scientifique, ce qui concerne le monde, l'homme, éventuellement Dieu. On peut dire que la science, au singulier, hein, ça reprend toutes les sciences, c'est un projet de l'humanité moderne. Dans la modernité, la science est un projet d'humanité. Et d'ailleurs, toutes les puissances veulent s'emparer de son langage et de son contenu. Tout le monde veut parler de manière scientifique, hein, argumenter avec des preuves, des expériences, etc. Et notamment, les politiciens, évidemment, veulent s'emparer non seulement du langage, mais aussi du contenu. Hein, parce que ce contenu est intéressant, la santé publique, c'est intéressant, les armes de guerre, c'est intéressant, manipuler les opinions, c'est intéressant. Donc, il faut avoir cette connaissance hein, théorique pour pouvoir les appliquer ensuite. Première caractéristique de la science, c'est l'objectivation. Donc, oui, j'ai indiqué là Jean Ladrière, c'est un philosophe dont j'ai suivi les cours à Louvain-la-Neuve. C'est un grand théoricien des sciences. C'est celui qui a démontré le théorème de Gödel. C'est aussi un mathématicien, un docteur en mathématiques. Et comme doctorat, ben, il a démontré un théorème que jusque maintenant, on n'avait pas réussi à démontrer. Hein. Voilà, c'est quand même pas mal. Hein. Donc, je m'appuie pas mal dessus. Et ça a été un peu remouliné par Albert Chappell dans son cours de l'épistémologie. Et à mon tour, donc, je continue. La science comme projet de l'humanité moderne. D'ailleurs, en parenthèse, on dit postmoderne parce que le projet d'omnirationalité est peut-être un peu en train d'être mis en cause hein, par la postmodernité. La postmodernité, eh bien, c'est une prise de distance par rapport à cette société hyper rationaliste, hyper efficace, hyper technique. On veut faire autre chose. On aspire à autre chose. C'est un peu un des éléments de la postmodernité, la question de est-ce que c'est vraiment utile d'avoir tout ce savoir, toute cette technique? Est-ce que ça ne nous empêche pas de vivre, finalement hein? Au lieu de nous donner la vie, est-ce que ça ne nous empêche pas, quelque part, de vivre? Donc, la science, d'abord, doit objectiver. Dans la connaissance, je l'ai dit la dernière fois, il y a un sujet connaissant et un objet connu. Il n'y a pas moyen de sortir de cette première équation. Il faut d'abord partir de là. Il y a un sujet connaissant, l'homme, il y a un objet connu ou à connaître. Hein? Eh bien, le sujet va préciser quel est son objet. Et le scientifique doit d'abord se choisir, se dire un objet, hein? Se le définir, le formaliser, dire quel est son objet formel. Donc, eh bien, par exemple, eh bien, le physicien, lui, c'est... C'est la matière, les corps en mouvement, etc. Tandis que le biologiste, ben, c'est les êtres vivants. Alors il y a évidemment toutes les ramifications. Eh bien, les êtres vivants, ça peut être quelqu'un qui s'occupe des animaux, qui s'occupe des plantes, qui s'occupe d'eux, etc. Mais voilà, un scientifique doit choisir un objet. Tout ce qui intéresse l'homme peut être transformé en objet de science. Tout. La science considère qu'elle peut tout examiner. Mais aucun scientifique n'examine tout à la fois sous tous les aspects. Donc, il choisit son objet. Le chimiste, par exemple, choisit la chimie et il voit tout sous l'angle de la chimie. Mais peut-être que le biologiste voit aussi le même objet, mais pas sous le jour de la chimie, sous le jour de la biologie. Même s'il y a évidemment des chevauchements, etc. Par exemple, un bic, voilà, eh bien, ça intéresse le chimiste parce qu'il faut faire des encres spéciales, etc. Mais ça intéresse aussi l'économiste. Comment est-ce qu'on va vendre ça, hein? Comment est-ce qu'on va produire cette affaire? Ça intéresse l'ingénieur, ça intéresse le commercial, mais l'objet formel de chacun de ces personnages est différent. Le même bic, ou le même animal, hein, ou le même patient, peut être vu de différentes manières. Chacun a donc son objet. Ça ne veut pas dire que cet objet est le seul à l'examiner, mais il l'examine sous un certain angle. C'est l'objectivation. L'objectivation. Et deuxièmement, une caractéristique du scientifique, c'est qu'il veut que son savoir soit opératoire. Alors, opératoire, ça veut dire quoi? Dans la science moderne, en tout cas, il a certaines caractéristiques. L'opération, c'est d'être capable de faire une action sur cet objet. Une action de transformation de nature formelle. Eh bien, on prend tous les végétaux. On essaie de trouver une définition générale de tous les végétaux, de subdiviser, etc. Mais on va travailler, on va faire des opérations. Il faut que cette opération soit thématisable, qu'on puisse l'exprimer, dire ce qu'on a fait et que les autres comprennent et puissent continuer le travail. Dire qu'il est d'accord ou pas d'accord, hein, puisse continuer le travail. Thématisable. Généralisable. Ça doit être traductible dans toutes les langues, sous toutes les formes. Et enfin, inscrit dans un réseau opératoire qui peut s'étendre au fur et à mesure que de nouvelles généralisations sont effectuées. Donc la science moderne veut être opérationnelle, opératoire. Elle veut être capable d'agir à partir sur l'objet et à partir de l'objet qu'elle a choisi d'étudier. Alors l'opération est parfois ce qu'on nomme un algorithme. Algorithme. Qu'est-ce que c'est un algorithme? C'est un ensemble de règles opératoires propres à un calcul. Ou bien de manière plus pratique, c'est un enchaînement d'actions nécessaires à la réalisation d'une tâche. Algorithme, alors comme vous savez, algorithme, ça ne s'écrit pas avec Y, parce que ça n'a rien à voir avec le rythme. C'est la latinisation d'un mot arabe, d'un nom arabe, d'un certain Al-Khwarizmi, qui est un mathématicien de 830 à Bagdad, hein, qui a été celui qui a organisé des procédures, des manipulations formelles, mathématiques, en disant voilà le chemin qu'il faut suivre pour obtenir tel résultat. Par exemple, extraire la racine carrée. Il était capable d'expliquer pas à pas comment on fait pour extraire la racine carrée. Il établissait un algorithme, c'est pas lui qui le disait évidemment, lui disait une procédure. Après on a dit, c'est un algorithme puisque Al-Khwarizmi l'a fait, donc c'est un algorithme. Voilà, établir une procédure qui est tout à fait thématisable, généralisable, on numérote les pas et tous ceux qui font tous les pas y arrivent. Il n'y a pas moyen de se tromper. Il ne faut pas être intelligent, il faut faire ce qui est écrit. C'est tout. Il faut être intelligent peut-être pour établir la procédure, mais une fois qu'elle est établie, vraiment tout le monde peut la faire. Même une machine. Bon, et évidemment, les machines les font très très bien. En principe, le scientifique veut tout objectiver, rien ne lui échappe. Nous verrons que même dans les sciences humaines, par exemple, on va objectiver l'homme. Ici, le sujet va étudier un objet, mais cet objet sera l'homme lui-même. Eh bien, on va objectiver le sujet, on va en faire un objet, mais il faut l'objectiver. Ça veut dire, au fond, lui retirer ses caractéristiques subjectives pour le regarder uniquement sous l'angle objectif. Dans la science, il y a souvent dissolution des évidences immédiates. Ça veut dire que vous pensez que ça se passe comme ça, puis le scientifique vous dit non, ça ne se passe pas comme ça. Parce que regardez, voilà la preuve. Alors l'exemple classique avec Descartes, par exemple, eh bien, vous mettez un bâton dans l'eau,
Hein, le bâton est droit, quand il est dans l'eau, ben vous voyez qu'il est courbe, qu'il est cassé.
Pourquoi ? Ben parce qu'il y a une illusion d'optique.
Alors on peut calculer pourquoi, l'angle, etc. Et voilà, donc, il y a des évidences immédiates qui sont déjouées, hein, par les calculs, qui sont expliquées ou déjouées, etc. Par exemple, on vous dit, ben, réchauffement de la planète, donc la Belgique va avoir plus froid que d'habitude. Parce que le Gulf Stream est détourné, je ne sais pas quoi, enfin bon. Je n'entre pas dans les détails, mais il peut y avoir comme ça des choses contre-intuitives. Contre-intuitives. L'homme de la rue, évidemment, ne comprend pas comment, eh bien, un réchauffement de la planète peut entraîner, pas partout bien sûr, mais à certains endroits, un refroidissement. À certains moments, un refroidissement. Dans la science, donc, il y a ça va parfois contre les évidences immédiates, et ça, c'est difficile à comprendre. Hein. Alors, même le scientifique qui connaît la formule d'optique de Descartes, il voit aussi le bâton cassé, hein, dans l'eau. Il voit comme tout le monde. Mais il peut expliquer à partir d'une formule pourquoi on a cette illusion. Alors, il y a, bien sûr, par exemple, dans la géométrie, eh bien, on est habitué, comme on dit, à la géométrie euclidienne. Hein? Ça veut dire, ben, deux parallèles se rejoignent à l'infini, mais pas avant, donc ça veut dire bien loin. Hein? Et puis, il y a les points, les lignes, les plans, etc. Puis on a inventé des géométries non euclidiennes, qui vont contre les évidences, hein, premières. Alors, même ce géomètre non euclidien, il ne sait pas se représenter, hein? Se représenter un espace qui n'est pas euclidien. Mais il peut le calculer, il peut s'en servir. L'espace, dit-on, a trois dimensions, bien, on peut ajouter une quatrième dimension, le temps. Mais on pourra en rajouter d'autres, hein. La température, la pression, je ne sais pas quoi. On imagine maintenant des espaces avec beaucoup plus de dimensions. Ils ne sont pas représentables, mais ils sont pensables, hein, de manière extrêmement abstraite, formalisée. La science a permis de produire deux sortes de machines qui ont changé la vie de l'homme. Une machine qui remplace la force physique de l'être humain, les moteurs, hein, et maintenant des machines qui remplacent ou qui aident, eh bien, la raison humaine à travailler. Ce sont les machines dans le sens de l'intelligence artificielle. La première génération des machines qui a remplacé la force de l'homme a eu un impact énorme sur la société parce que ça a mis sur le même plan l'homme et la femme par rapport au travail. Autrefois, il y avait toute une série de travaux qui étaient réservés à l'homme masculin parce qu'il avait plus de force, et la femme était pour d'autres tâches, hein, qui demandaient moins de force. Maintenant que pratiquement, ben, on ne fait plus de tâches de force, hein, dans les travaux parce qu'on a toutes sortes de machines qui remplacent la force, ça a beaucoup changé, hein, la société, la manière de s'organiser. Aujourd'hui, nous ne savons pas encore comment la deuxième génération de machines, celle qui remplace beaucoup d'opérations de calculs mentaux, va aussi changer la société. Nous allons le voir. Aujourd'hui, la science est normative, se présente comme normative de beaucoup de choses. C'est vrai parce que c'est scientifique. Un concerto, bon, c'est pas scientifique, donc, il n'est pas question de vrai, il est question de beau, mais le beau, c'est pas intéressant, hein, c'est la science qui est intéressante. Pourquoi ? En soi, la science n'a jamais décrié la morale, hein, ou la beauté, jamais. Mais la science aujourd'hui prend tellement de temps, absorbe tellement les forces de l'homme, que tout le reste est oublié. Et finalement est éliminé par omission, par prétérition. On parle tellement peu de certains domaines que finalement les gens, enfin les jeunes qui sont éduqués, ben, une fois qu'on leur parle de science, ben, ils se disent, ben, à côté de la science, il n'y a rien d'intéressant, puisque c'est ça qu'on me demande de faire et que je fais. Et même parfois je deviens addict à la science ou aux ordinateurs, je crois finalement que c'est ça le type de vérité. Et c'est là que je peux faire un second schéma. Dans la philosophie médiévale, on estimait que tout tout ce qui ressort de l'être, eh bien, était subsumé sous les trois transcendentaux du vrai, du bon et du beau.
Donc le vrai, le bon et le beau.
Alors ici, les trois cercles que je fais sont extérieurs les uns aux autres. Mais le fait d'être un transcendantal signifie justement que tout, toute chose, n'importe laquelle, est à la fois vraie, bonne et belle. Hein? Ou plus ou moins vraie, plus ou moins bonne, plus ou moins belle. Tout se situe par rapport à ces trois transcendantaux qui sont unifiés, disaient certains encore, par le transcendantal de l'âme. Enfin, je ne vais pas entrer dans cette grande discussion médiévale. Mais donc, il y a ici au niveau du vrai, eh bien précisément, la connaissance, le savoir, avec les sciences théoriques et les sciences pratiques. Au niveau du bon, c'est l'agir, donc ça c'est savoir. C'est ce que j'ai intitulé le tableau 2. Hein. Ça c'est l'agir, comment agit-on ? Ben, on agit en vue du bien individuel, ou du bien commun, collectif. Et le beau, eh bien, c'est tout ce qui ressort de l'art, de l'esthétique. Et je dirais que là, on est au niveau de l'expression et du goûter. Hein, du goûter, de apprécier. L'artiste s'exprime afin de montrer à quel point, eh bien, le monde est beau et il en fait quelque chose de beau. Alors ces trois domaines évidemment sont interdépendants, mais si dans l'éducation, si dans la manière dont on organise son temps, on passe les trois quarts de son temps ou les 9/10 dans ce domaine-ci et qu'on ne réfléchit pas à son action, hein, et qu'on n'apprécie pas les choses qui sont présentées par les artistes, ou soi-même on n'a pas une contemplation artistique de la nature, eh bien petit à petit ceci s'hypertrophie et les autres domaines s'atrophient. Et je crois que la science finit par devenir normative dans notre société, non pas parce que la science a le droit ou le pouvoir ou la capacité de nier la valeur des autres domaines, mais elle prend toute la place. Elle prend toute la place. C'est comme s'il y avait trois frères et sœurs dans une famille, et il n'y en a jamais qu'un qui parle tout le temps. Ben, on finit par oublier que les deux autres existent. Hein? Voilà. Et ben, c'est un peu ça, la question. Alors, au niveau du bien commun, eh bien, il y a ici un élément évidemment très important, c'est l'élément politique. L'homme est un animal social, il vit en société. Il a besoin des autres, il a besoin de relations, et donc il faut qu'on s'organise, qu'on organise la société, le travail, l'argent, la santé, qu'on organise 36 choses. Et ceux qui organisent, eh bien, ce sont des gens qui, dans nos démocraties en tout cas, eh bien, voilà, sont des politiciens qui sont élus. Et le but du politicien, c'est d'être, premièrement, de rassembler autour de son idée une série de gens, puisqu'on est en régime démocratique, et quand on a rassemblé suffisamment de gens, ou une majorité, ou je ne sais pas quoi, eh bien, on a le droit d'être mis aux commandes de la société, hein, et d'essayer de gouverner, de prendre des décisions, et normalement d'en porter les responsabilités. Hein. Voilà, donc je dirais que la politique, moi je le définirais par ces éléments-là, hein, rassembler, il faut d'abord rassembler, et puis après, il faut gouverner. Et puis enfin, il faut porter la responsabilité. C'est un peu la même chose que gouverner, mais enfin, vous voyez que ça peut aussi être dissocié. Eh bien, la science, en tant qu'elle prétend être une science théorique, ce qu'elle est, en partie, eh bien, prétend qu'elle n'a rien à dire sur l'agir, sur le bon et sur l'individu, le bien commun, etc. Le scientifique, le mathématicien, le chimiste, lui, il travaille son objet et il ne s'occupe pas directement des applications pratiques, et encore moins des applications pratiques qu'en feront les politiciens. Mais en général, les sciences, avec les découvertes qu'elles font, au niveau théorique mais surtout pratique, eh bien, suggèrent aux politiciens des choses qui seraient souhaitables, hein, de donner à tout le monde, ou bien d'acquérir à l'exclusion des autres, justement, hein, pour servir un projet davantage politique. Donc vous voyez que là, il y a déjà des liens qu'on peut faire avec le thème « Feuille de route et la madame ». Voilà. Donc il y a une soi-disant neutralité de la science par rapport à la sphère de l'agir, mais cette soi-disant neutralité, comme nous le savons, eh bien, elle est très perméable. Hein? Elle est très perméable. Et il y a une espèce d'éthique de la science qui est un peu tout le temps mise à mal. Hein? Bon, les manipulations génétiques, oui, non, ben, moi je suis un pur scientifique, donc j'explore, oui, mais enfin, il y a derrière des capitaux, il y a derrière des gens qui demandent, il y a derrière des enjeux par rapport à la société, etc. Donc la science, facilement, se laisse entraîner dans un jeu où ses applications, hein, eh bien, intéressent énormément des dessins complètement extra-scientifiques. Alors, je passe maintenant aux sciences formelles. Les sciences formelles, eh bien, ce sont la logique et les mathématiques. J'ai fait une faute sur ma feuille. C'est pas les mathématiques, hein, les mathématiques. Et les sciences empirico-formelles, c'est la physique, la chimie et la biologie. Et bien sûr, toutes les ramifications et tous les ponts qu'on peut faire. Alors, moi, j'aime beaucoup présenter ce que sont les sciences formelles. Parce qu'il y a une caractéristique dans les sciences formelles qui est tout à fait extraordinaire. C'est une connaissance, c'est un savoir, donc il y a un objet. Où est l'objet de la logique? Où est l'objet de la mathématique? Eh bien, beaucoup s'imaginent que l'objet, eh bien, se trouve à l'extérieur. Voilà, il y a ici 15 bancs, donc j'ai abstrait le nombre 15 du fait d'avoir 15 bancs devant moi. Eh bien, peut-être que psychologiquement, ça a été une étape, hein, qui a constitué l'objet de la science formelle, mais en réalité, la science formelle, la logique, son objet, c'est le fonctionnement de l'intelligence. Et les mathématiques, son objet, c'est un objet complètement abstrait, c'est les nombres et c'est l'espace. Kant dirait, c'est le temps qui s'écoule, 1, 2, 3, 4, etc. C'est le temps qui s'écoule et c'est l'espace. La géométrie et le nombre, le temps et l'espace. Ce sont des intuitions a priori de l'être humain, des catégories a priori. Alors après, il y a les 12 catégories de l'entendement, dirait Kant. Hein. Eh bien, on travaille uniquement sur des choses qu'on a dans sa tête. Aussi bien la logique, qui est très 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 compliquée, parce que justement elle est très 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 primitive, hein, je dirais au niveau de ce qu'on étudie. On étudie le fonctionnement raisonnable de l'esprit humain. Et les mathématiques, là on commence un peu à voir de quoi il s'agit, mais ce sont des objets totalement immatériels. Tous les mathématiciens travaillent des objets immatériels. Ces objets n'existent pas, si ce n'est dans leur tête, et éventuellement sur le papier pour s'aider un peu. Mais si je fais un cercle, si je dis que ça c'est un cercle, en fait c'est pas un cercle, hein, c'est un cercle mal foutu, etc. Je n'arriverai jamais à dessiner un vrai cercle. Mais le vrai cercle est dans ma tête, avec la formule. Donc ça c'est l'objet abstrait. L'objet complètement créé par l'esprit humain, par l'intelligence humaine. Une ligne, ça n'existe pas dans la réalité. Vous allez me dire, oui, mais regardez ça. Oui, moi je le vois comme une ligne parce que j'ai dans ma tête, hein, cette création que j'ai définie comme étant une ligne. Alors je peux voir des lignes, etc. Je peux même projeter dans la réalité des lignes que j'ai faites dans ma tête, peut-être. Mais en fait, les mathématiques sont uniquement focalisé sur un objet immatériel, intelligible. Alors on verra que c'est très intéressant pour les sciences empirico-formelles parce qu'ils vont se saisir du formel comme instrument pour organiser l'empirico, l'expérience. Mais le chimiste, le physicien, il a des objets matériels. Il sait de quoi il parle de ceci, de cela, bon. Tandis que le mathématicien, ce dont il parle se trouve dans sa tête. Et ça doit répondre uniquement à la logique qu'il a dans sa tête. On ne vérifie pas la formule d'un cercle en mesurant. C'est en réfléchissant au fonctionnement de l'esprit et à ce qu'est l'espace en soi, abstrait, qu'on arrive à établir les formules. Ça, c'est très important. La logique est une science encore plus formelle que les mathématiques. Alors, la logique, certains s'arrachent les cheveux quand ils suivent un cours de logique. C'est très compliqué parce que c'est très au fondement de notre propre réflexion. Alors, on pourrait dire que, voilà, on s'abstrait totalement et on essaye d'énoncer des vérités qui sont immatérielles et qui sont donc dégagées des circonstances, qui sont vraies de manière intemporelle, immatérielle, et qui vont fonctionner comme des schémas purement formels, purement vides. L'originalité des éléments que l'on peut compter, le nombre de bancs ici, eh bien, est complètement abstraite. Quand je dis 2 plus 2 égale 4, c'est des pommes, c'est des bancs, c'est des personnes, c'est tout, c'est tout. Et c'est quand? C'est hier, c'est demain, c'est tout le temps. Voilà, on est vraiment dans l'abstraction. Alors, les grands principes de la logique sont les suivants, vous les connaissez, il y en a 3. Principalement de la logique la plus basique, c'est le principe d'identité, c'est le principe de non-contradiction et c'est le principe du tiers exclu. Alors si j'écris ça de manière un peu formelle au tableau, ça donne ceci. P est un objet. Vous voyez bien que P est un objet. C'est quoi? C'est n'importe quoi. Eh bien, P double implique P. Ça veut dire que quand on a P, quoi. Il y a l'identité de l'objet avec lui-même. Vous allez me dire, mais ça, franchement, ça, tout le monde sait. Ah oui, mais c'est la base de tout. Parce qu'on ne peut pas dire, tiens, Bernard, c'est Bernard, mais dans une demi-heure, il sera Alexandre, et puis il deviendra autre chose. Non, non, il y a le principe d'identité. Le principe de non-contradiction. On n'a jamais P et en même temps, ça c'est E, non-P. Si on a quelque chose, eh bien on n'a pas le contraire. Et le contraire immédiat. Il est impossible, d'avoir en même temps une chose et son contraire. Et le troisième principe, c'est le principe du tiers exclu. Alors, on a ou bien P, ou bien, ça c'est le ou exclusif, ou bien P, ou bien non P. C'est vrai ou c'est faux? C'est pas un troisième. C'est pas un troisième. Il faut choisir. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'on pourrait inventer une logique avec 3 valeurs de vérité? Le vrai, le faux et le je sais pas quoi. Mais on pourrait, il suffit de le faire, c'est des objets qu'on a dans la tête. Ceci, ce sont les principes les plus naturels de la logique. C'est tout à fait naturel, nous fonctionnons toujours avec ça. Quand on fait une faute, eh bien, c'est qu'on n'a pas respecté un de ces principes-là. Même sans le savoir, mais quelqu'un pourra vous le faire remarquer. Oui, vous avez entendu ce petit claquement, c'est que la pile a rendu l'âme. Donc je la change. Ça va, c'est reparti?
Oui.
C'est bon. Voilà, donc ça c'est la logique, hein, qui part de principes extrêmement simples et puis qui se complexifie. Il faut bien sûr avoir des règles, des conventions, etc., peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a des schémas complètement vides et qui s'appliquent à tout. Il y a une universalisation possible, parce que P, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. D'une certaine manière, dans les sciences formelles, on est uniquement aux prises avec ce qu'on a inventé. Et il faut être logique avec ce qu'on a inventé. Il faut être d'accord avec les principes qu'on a posés. Et on développe, et il faut être cohérent. Alors bien sûr, les mathématiques ont évolué, hein, et on a inventé des choses de plus en plus bizarres et de plus en plus extraordinaires. Mais tout ça, c'est dans la tête. Hein. Alors je fais un autre tableau maintenant, le tableau des nombres. C'est un exemple que je donne, mais qui va arriver à, me semble-t-il, quand même à un résultat assez... assez probant sur un point. Bon, d'abord, qu'est-ce qu'on a inventé comme nombre? 1, 2, 3, 4, 5, les naturels positifs. Vous savez que ça a été une grande découverte en arithmétique de dire que 0 était un nombre. 0, c'est un nombre. Oui, on est habitué parce qu'on a étudié ça, mais c'était pas si évident que ça. Hein? Donc, 0. Et puis, les nombres négatifs. Mais vous n'allez quand même pas dire qu'il y a des non-réalités. Hein? Ah oui, mais quand on fait 3 pommes moins 2 pommes, donc on peut dire que c'est 2 pommes négatives. Ah, bon, on est parti déjà un peu dans l'abstraction. Donc, il y a les nombres négatifs. Alors avec ça, on a commencé à inventer les fractions. Un quart, un tiers, etc. C'est un nombre.
Oui.
Et tous ces nombres-là, et avec ça, on peut déjà faire pas mal d'arithmétique, hein, pas mal d'arithmétique, oui, de théorèmes extraordinaires, hein, avec les puissances, les multiples, les divisibles par, etc. Enfin, à partir de choses assez simples, on peut aller très loin. Par exemple, à partir de l'addition, on invente la multiplication, si on veut. 2 plus 2 plus 2 plus 2, ben on va dire 2 fois 4. Quoi. Bon. Après, de la multiplication, on va à la division, à la fraction, puis au pourcentage, et puis par exemple aux intérêts composés, et puis, etc., on peut continuer. Donc ces chiffres-ci, ces nombres-ci, sont appelés les nombres rationnels. Là, on est assez habitué, on voit encore bien de quoi il s'agit. Mais alors, il y a des nombres irrationnels. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont irrationnels? Il y en a de deux types. Ceux qui sont incommensurables, par exemple, racine de 2, parce qu'on n'arrive jamais à le calculer exactement, ça continue. Et puis alors, il y a les transcendentaux, le nombre pi par exemple. Il y en a d'autres, bien sûr. Et tous ceux-ci sont appelés les nombres réels. Donc vous voyez que pour faire toutes ces opérations-là, on n'a pas été dans la nature. Alors, on peut voir que la racine de 2 correspond à quelque chose dans un carré, etc., d'accord. Mais ce n'est pas le carré qui a inspiré ça, c'est la vision du carré qui a appelé à l'invention de racine de 2. Alors, il y a évidemment une règle que vous connaissez tous, de la multiplication, hein, qu'on ne peut jamais quand même enfreindre, c'est plus par plus donne. Plus par moins donne. Moins par plus donne. Et moins par moins donne plus. Bon. Donc moins par moins donne plus. Donc toutes les puissances 2, tous les carrés sont toujours positifs. Hein? Si vous faites 3 fois 3, c'est 9. Si vous faites moins 3 fois moins 3, c'est 9. Tous les carrés sont positifs. Il y a un mathématicien qui s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas inventer des carrés négatifs? Alors, qu'est-ce que c'est le carré négatif? C'est ce qu'on appelle les nombres imaginaires. Donc, le nombre imaginaire, c'est quoi? C'est i. Et la définition de i, imaginaire, c'est que i carré égale moins 1. Vous voyez que cette formule, elle est complètement fausse à l'intérieur de réel. Elle vient avec autre chose, avec une autre invention. Pourquoi pas? Le scientifique des sciences formelles peut toujours inventer autre chose et créer un système pourvu qu'il soit logique, pourvu qu'il soit cohérent avec ce qu'il a posé au point de départ. Alors ça, on appelle donc les nombres imaginaires. Et on se demande, mais à quoi ça sert? Le mathématicien ne se pose pas la question à quoi ça sert. Il le fait. Il le fait pour voir. Hein, pour voir jusqu'où le jeu est amusant. Alors, quand on met maintenant des imaginaires et des réels ensemble, on a les nombres complexes. Bon, et bien ça, c'est un exemple de création à partir des nombres. Que quelqu'un des sciences formelles est capable et a le droit de faire. Alors à quoi ceci correspond? On ne sait pas. Ça correspond à quelque chose dans ma tête, je suis logique. Mais il se fait que, précisément, c'est un peu la transition vers les sciences empiriques formelles, il se fait que dans la physique, on a besoin de beaucoup de mathématiques. On se sert de mathématiques. Et on va puiser. Quand on est un débutant, on va puiser ici dans les rationnels, parce que les racines carrées, ça devient déjà un peu compliqué. Enfin, il faut bien progresser. Donc, on prend pi, on prend e, on prend le nombre d'or, on prend etc. Bon. Et instantanément, on parvient à résoudre les problèmes de la physique grâce aux outils mathématiques que l'humanité s'est donné, que certains mathématiciens ont fabriqués. Vous pouvez imaginer les théories mathématiques comme des outils que, on met dans une armoire, des outils, on ne sait pas quand ça servira, mais peut-être qu'un jour ça servira. Donc j'ai fait un bel outil, il est là, à quoi il sert, on n'en sait rien. Les physiciens sont toujours à la recherche de nouvelles manières de calculer des phénomènes qu'ils n'arrivent pas à approcher. Et parfois, ils vont chercher chez le mathématicien des théories en se demandant « Est-ce qu'il n'y a pas une théorie qui pourrait résoudre mon problème physique qui me, je bute sur ce problème. Comment est-ce qu'on fait ?» Alors, je ne sais pas si vous savez dans quel domaine on utilise les nombres imaginaires.
Électricité.
En électricité, exactement. L'électricité, c'est quelque chose quand même qu'on ne voit pas très bien, où ça passe, comment ça se fait. Là, moi, en tout cas, ça marche, bon, tant mieux. Mais comment est-ce qu'on calcule tout ça? On manquait d'outils. Et instantanément, il y en a un qui s'est dit, tiens, si j'essayais avec les imaginaires, avec les imaginaires, je trouve la solution. Je trouve la solution du problème pratique qui se posait à moi et que je ne parvenais pas à cerner, que je ne parvenais pas à développer, que je ne parvenais pas à appliquer, etc. Donc voilà, un outil mathématique qui a l'air tout à fait... un fécond qui trouve une application dans la réalité. Et c'est ainsi que, on voit que le formalisme de l'intelligence produit des choses qui rencontrent quelque part le réel. C'est absolument extraordinaire. Einstein disait, je me demande comment il se fait que le réel est au rendez-vous de mes calculs. Lui était un peu idéaliste, lui, c'était les calculs, puis après, il fallait faire une expérience, il disait, on va appeler Fermi ou un autre pour faire les expériences, parce que moi, les expériences, là, je me trompe chaque fois. Donc, il y a parmi les physiciens des expérimentateurs, d'autres qui sont plus du côté du formalisme, justement. Mais c'est ça qui est extraordinaire, hein, c'est que ce qui est un pur objet immatériel, hein, pour les sciences formelles devient tout à coup un outil pour les sciences empirico-formelles. Alors je passe à ces sciences empirico-formelles. Comme vous savez, il y a un tableau classique qui vient de Claude Bernard. En 1865, il propose ce schéma-ci, c'est le tableau 4. Qu'est-ce que c'est la science expérimentale, la science empirico-formelle? Eh bien, on a des faits que tout le monde peut observer. Il pleut, ou bien j'ai une décharge électrique, ou bien la lumière ceci, etc. Des faits. Et puis, je me rends compte que ces faits se répètent, parfois à l'identique, parfois sous d'autres formes. Et donc, en les observant, je peux tirer des lois grâce à l'observation. C'est un schéma assez simple, mais qui est assez puissant. J'observe, je suis un physicien ou un chimiste débutant, hein, j'observe, et puis je remarque qu'il y a des choses qui se répètent de manière constante, et donc je tire des lois. Et puis après, par des hypothèses qui mettent ensemble plusieurs lois, j'essaie de formuler une théorie. Et puis quand j'ai ma théorie, eh bien j'essaie de voir si ma théorie m'aide à expliquer les faits. Parce que la théorie est plus complexe finalement que les lois, que les hypothèses. Hein. J'ai une théorie et je voudrais bien voir, je voudrais bien déduire de ma théorie les faits. Alors, ce chemin-ci, c'est un chemin qu'on appelle inductif. Et ici, on a un chemin déductif. Alors, comme vous savez, pour la logique, il n'y a que le chemin déductif qui est démonstratif. Le chemin inductif, c'est dire, j'ai vu 5 voitures rouges sur cette rue, eh bien, il y a beaucoup de voitures rouges, il y a même la moitié qui sont rouges. Ah ben oui, ben, j'ai observé 4K, 10K, même 100K, et puis je tire une conclusion, c'est de l'induction. Mais on peut toujours trouver un seul cas contraire et l'induction est par terre. Tandis que la déduction, eh bien, c'est de ce style-ci. Et normalement, une déduction est implacable et elle reconstruit, on essaie avec la théorie, à partir de la théorie, de déduire les faits particuliers. Donc la théorie est évidemment tout à fait universelle, générale. Je mets comme ça universelle et les faits sont particuliers. Du particulier, on tire de l'universel, et puis on essaie de formaliser cet universel, et on essaie de faire le chemin inverse, de déduire de l'universel le particulier. Ça, au fond, c'est le schéma classique, le plus continuellement utilisé dans les sciences empirico-formelles. Parmi les chimistes, les physiciens, il y en a qui sont plus du côté de la théorisation, d'autres plus du côté de l'expérimentation. Il y en a qui aiment bien travailler en laboratoire, qui aiment bien chipoter, bon, etc. Et il y en a qui aiment bien calculer. Ce n'est pas toujours les mêmes. Ceux qui sont plus du côté de l'expérimentation ont parfois une tendance, je dirais, un peu positiviste, empiriste. Et ceux qui sont plutôt du côté de l'universalité ont des tendances un peu idéalistes, hein, un peu spiritualiste. Des grands scientifiques se trouvent des deux côtés. Hein. Des gens comme Carnap, Wittgenstein, Russell, etc. Bon, sont plutôt des gens du côté positiviste, néo-positiviste évidemment, avec des nuances. Hein. Ils ne nient pas qu'il y ait une certaine organisation intelligible. Tandis que des gens comme le roi, comme Braunschweig, comme Einstein étaient plutôt des idéalistes. Des gens qui travaillent au niveau de la théorie, hein, qui est bien quand on a passé cette partie-ci. Mais il faut les deux. Cette science empirico-formelle est constamment sur l'arête entre l'expérience et la théorie. Et il y a des théories qui suggèrent des expériences. On dit, tiens, mais si la théorie m'a dit ça, mais je vais essayer de le faire.
Je fais une expérience et puis l'expérience me dit « Ah non, ça ne marche pas. » Ah, c'est que ma théorie n'est pas encore au point. Je dois refaire une modification dans ma théorie pour qu'elle rencontre les faits. Mais parfois, les faits, par hasard, me donnent des éléments qui permettent de perfectionner ma théorie. Par exemple, Joliot-Curie, ils ont découvert la radioactivité. Après, on s'est dit, tiens, la radioactivité, c'est intéressant, est-ce qu'on pourrait faire de la radioactivité artificiellement? Voilà, on est parti pour voir si on pouvait utiliser cela de manière artificielle, pas simplement ce qu'on constate naturellement. Et ainsi de suite, on avance, et c'est toujours cet aller-retour entre l'expérience et la théorie qui fait avancer donc la science. J'en parlerai de manière plus élaborée. Mais par exemple, en 1938, Hahn, un physicien allemand, découvre la fission de l'atome. On peut casser les atomes en deux. Ah, 1938. Et un certain Szilard, qui est un homme assez remarquable, un Hongrois, l'année suivante, a l'intuition que si on peut casser un atome en deux, après il se disperse et puis il n'y a plus rien qui se passe. Ah non, mais s'il y a une masse critique, une distance critique, si les atomes sont suffisamment proches l'un de l'autre, ils se divisent en deux, qui se divisent en deux, qui se divisent en deux, c'est la réaction en chaîne. Il a l'intuition que dans certaines circonstances, il y a cette fission de l'atome, peut être un phénomène extrêmement rapide et violent et puissant, et donc, on peut faire une bombe à partir de ça. Mais c'est une intuition complètement théorique. Après, ils ont fait une expérience pour voir si ça marchait. Alors, il paraît qu'ils étaient devant l'écran pour voir l'expérience, Fermi, Zinn, lui, etc. Et alors, ils ne voient rien, c'était rien. Il dit, l'expérience a raté. Ah non, ils avaient oublié de brancher l'écran. Les grands scientifiques, là, ils avaient fait une très bonne expérience, et puis ils avaient oublié de mettre on-off pour l'écran. Et puis quand ils ont vu ce qui se passait sur l'écran, ils ont dit, c'est vrai, la réaction en chaîne est possible. Vous voyez, à partir d'observations de faits, des lois, des hypothèses, des théories, et puis à partir de la théorie, il y a un cerveau, là, qui s'imagine quelque chose. Est-ce que ça va rencontrer la réalité? Alors on fait l'expérience. Il y a des choses dont on connaît très bien que c'est comme ça, et c'est très difficile de faire une expérience simple qui mette en évidence cette chose-là. Par exemple, bien que la Terre tourne sur elle-même. Tout le monde a l'air de croire que la Terre tourne sur elle-même, Faites-moi une expérience pour me montrer que la Terre tourne sur elle-même. Nous sommes évidemment au XVIIe, XVIIIe siècle. C'est le fameux pendule de Foucault. Vous connaissez l'histoire du pendule de Foucault, On pend un pendule très très haut, très très haut, très puissant, et hop, on le balance, et puis on se rend compte que sa trajectoire commence à dévier, et puis finalement, elle prend un autre angle. Ça, c'est une preuve expérimentale qu'il y a une rotation quelque part. Mais qu'avec un grand pendule et un point d'accrochage qui est très peu... il y a très peu de frottement, le pendule continue dans ce qu'on croyait être l'espace absolu. Après, on a vu qu'il n'y avait pas d'espace absolu, etc. Mais voilà, mettre au point une expérience pour prouver quelque chose qu'on croit être comme ça, c'est parfois très difficile. Et il faut de l'imagination, parce que ce fameux Szilard, par exemple, quand il a expliqué à Einstein la possibilité de la réaction en chaîne, Einstein a dit, j'y ai jamais pensé. Je n'ai jamais pensé que c'était possible. Einstein lui-même, qui a été à l'origine de beaucoup de choses, n'avait pas imaginé le Big Bang, ne croyait pas au Big Bang, ne croyait pas à la réaction en chaîne, ne croyait pas... à la physique quantique, au point de départ. Et pourtant, ces scientifiques disaient que c'est de lui qu'on tirait tout ça. Alors je termine avec une petite indication sur image du monde, imagination et raison. L'homme de la rue, l'homme de la connaissance quotidienne, a des éléments de science qui lui viennent par la télévision, par
des lectures, par des romans de science-fiction aussi.
Parce que par exemple, je crois que c'est en 1913 qu'un romancier de science-fiction avait imaginé la bombe atomique. Il l'avait imaginé. Un certain temps après, ça se réalisait. Donc nous avons des informations comme ça, et avec nos intuitions un peu simplistes, hein, ou bien un peu élaborées, nous avons des images de ce que c'est. Des images de ce que c'est. Et ces images, comme toutes les images d'ailleurs, ont un impact sur notre affectivité. Une image, eh bien, c'est pour ça que le visuel est tellement important aujourd'hui, hein, parce que ça ne parle pas qu'à l'intelligence, ça parle aussi à l'affectivité. Vous montrez une image horrible, vous montrez une image merveilleuse, tout de suite on est affecté. Alors, quand une théorie scientifique est mise en image, elle affecte, hein, la population. Alors, vous avez tous vu déjà, hein, le petit singe qui est comme ça, et puis alors qui monte, et puis qu'on voit un homme qui se promène. Bon, alors ça fait je ne sais combien de millions d'années, mais tout le monde croit que ça va vite, et que donc nous sommes des singes qui se sont mis debout avant-hier, et puis c'est comme ça, quoi. Cette imagination sur la théorie de l'évolution a un impact sur nous, un impact qui est scientifique ou qui ne l'est pas. Il y a sans doute plus d'imagination que de science dans ce genre d'image. Il faudrait examiner de près si la théorie est vraiment bien illustrée par ce genre d'image. Le Big Bang. Le Big Bang, c'est la même chose. On s'imagine le Big Bang, mais c'est inimaginable. Hein? Les choses ne sont pas imaginables. L'évolution par sélection naturelle, on peut représenter ça de manière très violente. Hein? Et donc, moi, j'aime pas la théorie de l'évolution parce que c'est un carnage. Mais est-ce que c'est bien vrai, hein? Est-ce que ça s'est passé comme ça, ou avec cette même impact, je dirais, de violence? Voilà, il y a beaucoup de choses, donc l'homme, je dirais, normal, hein, eh bien, perçoit plus à partir d'images, hein, que de la science elle-même. Mais ces images peuvent aussi donner quelque chose de merveilleux. Par exemple, les méditations de Teilhard de Chardin sur l'univers. Ce sont des images qui sont inspirées de ce qu'il avait étudié. Il savait bien que ce n'était pas déductible, hein, scientifiquement, mais ça lui donnait un sentiment, hein, d'élévation, de contemplation métaphysique et religieuse qui était tout à fait comblant et qui nous impressionne encore beaucoup aujourd'hui. Voilà, je m'arrête ici, l'heure sonne. Le temps n'est pas réversible, du moins pour Newton. Hein. Pour Einstein, il l'est. D'une certaine manière.